VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 10 janvier 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En Côte d'Ivoire, des coups de feu et des explosions ont été entendus dans la soirée hier à Bouaké.
Une délégation de l'épiscopat de la RDC reçue hier par le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso.
Nikki Haley, représentante permanente des États-Unis à l'ONU, qualifie de vraiment horrifiant les rapports de brutalité et de cruauté le 31 décembre dernier en RDC.
Au Sénégal, mort à l'âge de 92 ans de Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, le khalife général de la très influente confrérie des Mourides.
Les États-Unis et les Nations Unies se félicitent du premier face-à-face depuis 2 ans, hier à Panmunjom, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, des coups de feu et des explosions ont été entendus hier dans la soirée à Bouaké, cette ville du centre de la Côte d'Ivoire à 350 km d'Abidjan et l'épicentre des mutineries de soldats ivoiriens depuis 2017. Les derniers développements avec notre correspondant sur place, Siriki Baro.
Aux alentours de 19h, heure locale, des éléments, des forces de l'ordre, des militaires se sont attaqués à la base du centre de commandement de décision opérationnelle, CCDO, qui est basé au quartier Sokora. Ils ont été repoussés. Cette attaque a finalement dégénéré en une nuit folle avec des échanges de tirs à l'arme lourde qui se sont poursuivis jusque très tard dans la nuit. Les populations ont eu très peur, elles ont été prises de panique. Les tirs se sont arrêtés aux alentours de minuit 30 et juste après, on a eu 2 hélicoptères Mi-24 qui ont décollé d'une base militaire à Abidjan et qui ont survolé la ville de Bouaké pratiquement toute la moitié de la nuit. On n'a pas encore tous les détails en ce qui concerne le bilan. Les tirs étaient très intenses du côté du 3e bataillon, situé également dans le même quartier, dans le quartier Sokora, quartier qui abrite la base du centre de commandement du CCDO. On a entendu des tirs à l'arme lourde. Il y a eu une grosse détonation qui vraiment a été entendue pratiquement dans toute la ville. Siriki Baro, Mbouaké, pour VOA Afrique.
Une délégation de l'épiscopat du Congo-Kinshasa a été reçue hier par le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, afin d'éviter, je cite, « le pire » suite aux violences qui ont tendu les relations entre les catholiques et le pouvoir à Kinshasa. Précision de Dilidico.
Les évêques de la RDC se sont rendus à Brazzaville pour rencontrer le président Denis Sassou Nguesso, chargé du suivi du mécanisme de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, selon l'abbé Donatien Tcholé, porte-parole de l'épiscopat. Il a ajouté que la marche du 31 décembre dernier à Kinshasa a été évoquée et que si la situation est prise à la légère, on risque de vivre le pire. L'interdiction et la dispersion musclée de la marche des catholiques le 31 décembre à Kinshasa a fait au moins 5 morts, selon l'ONU et la Nonciature apostolique. Le gouvernement de Kinshasa assure qu'il n'y a eu aucune victime. L'archevêque de Kinshasa, Laurent Monsingo, a dénoncé la barbarie des autorités et réclamé que les médiocres dégagent. Très proche du président Sassou Nguesso, le cardinal Monsingo ne faisait pas partie de la délégation. Des élections sont prévues le 23 décembre 2018 pour trouver le successeur du président Joseph Kabila, dont le dernier mandat s'est terminé en décembre 2016. L'opposition l'accuse de tout faire pour se maintenir au pouvoir et l'abbé Tcholé a indiqué à Brazzaville que les élections à la fin de l'année sont faisables.
Pour sa part, le secrétaire général adjoint pour les opérations de paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a réclamé hier à Kinshasa des enquêtes sur les auteurs des violences du 31 décembre pour établir les responsabilités et traduire en justice les auteurs présumés de violations des droits de l'homme. S'adressant au Conseil de sécurité, M. Lacroix a aussi déploré les entraves au travail des casques bleus ce jour-là par les forces de sécurité congolaises.
De son côté, la représentante permanente des États-Unis, Nikki Haley, a ajouté que M. Kabila devait rendre ses forces de sécurité responsables, respecter les droits de l'homme de ses citoyens et respecter son engagement à démissionner à la suite des élections de décembre. Entendre des rapports de brutalité et de cruauté contre des civils innocents et des enfants dans les lieux les plus sacrés est vraiment horrifiant, a souligné Mme Haley dans un communiqué.
RDC toujours avec le processus électoral et la CENI qui a réceptionné mardi à Kinshasa les 8 premières machines à voter. Cet outil informatique qui sera pour la première fois utilisé par les Congolais lors des prochaines élections est au cœur de débats en RDC. La commission électorale en a fait un impératif. Pas d'élection le 23 décembre 2018 sans la machine à voter, a dit à VOA Afrique Corneille Nanga. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est un premier lot de 8 machines seulement. Un deuxième de 240 suivra, puis un troisième. Nous voulons qu'avant le 23 décembre 2018, la majorité des Congolais sachent comment utiliser cet outil informatique pour bien voter, a dit à Top Congo FM Corneille Nanga, le président de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI qui a, à travers cette acquisition, lancé en ce mois de janvier une vaste campagne nationale de sensibilisation à l'utilisation de la machine à voter, outil qui suscite déjà diverses réactions dans l'opinion. Nous avons tenu compte de toutes les préoccupations soulevées par les différentes parties prenantes au processus électoral dans la phase expérimentale de cette machine à voter. La machine va offrir plusieurs avantages, notamment la réduction du temps de vote et de la période d'attente de l'annonce des résultats, la réduction de la fraude électorale sinon sa suppression, la réduction du coût global des élections, sans oublier que le comptage des voix est à la fois manuel et électronique, a pour sa part souligné le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, avant de conclure. Cette campagne de sensibilisation va permettre de lever tout équivoque sur l'utilisation de cette machine à voter qui suscite une polémique inutile dans la classe politique congolaise. Notez que la machine à voter, selon les chiffres présentés par la CENI, va coûter 1 500 $ américains à la pièce. Il en faudra 105 149 à la CENI pour organiser les 3 premiers scrutins prévus le 23 décembre prochain. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le Sénégal en deuil, cher Sidi Mokhtar Mbaké, le khalife général des Mourides, la plus importante communauté religieuse du pays, est mort. Les fidèles convergent déjà en masse vers Touba, ville sainte de la confrérie située à plus de 200 kilomètres de Dakar. Selon le site Sénéweb qui cite la RTS, c'est Serigne Bassiro Muntaha Mbaké qui est le nouveau khalife général des Mourides. Pour rappel, Serigne Sidi Mokhtar Mbaké, qui s'est éteint ce mardi, avait 92 ans.
Une quinzaine de ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine se sont réunis hier à Rabat, au Maroc, pour réfléchir à de meilleures solutions pour intégrer les migrants en Afrique. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Cette réflexion collective doit aboutir à un agenda africain sur la migration, dont les résultats seront présentés lors du prochain sommet de l'Union africaine, fin janvier, à Addis Abeba, a annoncé Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine. Une meilleure intégration des migrants et la gestion des frontières sont les volets majeurs de cet agenda. Les migrations sur le continent sont essentiellement intra-africaines. 80% des migrants choisissent une destination du continent. Seuls 12% d'entre eux parviennent en Europe. L'Afrique du Sud arrive en tête des destinations d'accueil avec 3,1 millions de migrants africains, suivi de la Côte d'Ivoire avec un peu plus de 2 millions et du Nigeria. La rencontre s'inscrit dans le cadre du mandat panafricain confié en mars au roi Mohamed VI pour élaborer une vision commune sur un programme migratoire. Le Maroc, qui a réintégré l'Union africaine début 2017, préconise une migration intra-africaine ordonnée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et les Nations Unies se félicitent des mesures visant à relâcher la tension entre la Corée du Nord et la Corée du Sud après le premier face-à-face entre les deux pays depuis 2 ans hier à Panmunjom, dans la zone démilitarisée. Pyongyang et Séoul ont convenu d'avoir de nouveaux pourparlers militaires et de rétablir leur téléphone rouge pendant que les Nord-Coréens envoient une délégation aux Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud. Le président sud-coréen Moon Jae-in a déclaré que la dénucléarisation et, je cite, la voie vers la paix est notre objectif, fin de citation. Il s'est aussi montré ouvert à l'idée d'un sommet avec le Nord.
En Iran, un parlementaire estime à quelque 3700 le nombre de personnes interpellées dans les manifestations antigouvernementales à travers le pays, soit un nombre plus élevé que celui qui avait été précédemment avancé. Selon Mahmoud Sadeghi, l'arrestation des protestataires par différents services de sécurité a rendu difficile l'établissement d'un bilan plus précis. Amnesty International a appelé les autorités iraniennes à enquêter immédiatement sur les informations selon lesquelles 5 personnes au moins sont mortes en détention après la répression des manifestations au cours des 2 dernières semaines. semaine.
Immigration ici aux États-Unis, le président Trump appelle au compromis mais ne lâche rien sur le mur qu'il veut construire à la frontière avec le Mexique, Morgan Guerriec.
Donald Trump a appelé hier les élus à trouver un compromis sur l'immigration et la régularisation de milliers de clandestins arrivés enfants aux États-Unis. Le président Trump a abrogé en septembre le programme DACA, qui a permis à près de 700 000 jeunes sans papiers de rester sur le sol américain. Il a donné au Congrès jusqu'à mars pour trouver une solution permanente pour cette population connue sous le nom de Dreamers. En revanche, le patron de la Maison-Blanche est resté inflexible sur le mur à la frontière du Mexique. Insistant sur la sécurité, il exige le vote de crédit pour ériger le mur. C'était l'une de ses promesses de campagne pour barrer la route à l'immigration clandestine. Monsieur Trump a une nouvelle fois réclamé la fin du rapprochement familial et la suppression de la loterie annuelle de cartes vertes.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le rapport annuel 2016 de la zone franc a attribué au Togo par erreur les données sur la production de pétrole de la Côte d'Ivoire. Des soupçons d'exploitation clandestine ont alimenté un début de polémique nationale alors qu'aucune recette pétrolière n'a été enregistrée à ce jour au trésor public togolais. La même erreur porte aussi sur les statistiques sur les principales productions vivrières. La BCAO promet de rectifier en publiant un erratum sur son site internet. La Banque centrale du Nigeria a injecté 210 millions de dollars au marché de change interbancaire. C'est pour répondre à des demandes en devises enregistrées pour les activités ventes en gros, petites et moyennes entreprises. Ce montant inclut les frais de scolarité à l'étranger, les règlements des factures médicales et les frais de mission en dehors du Nigeria. Les réserves de change ont progressé d'un milliard de dollars entre décembre 2017 et janvier 2018 pour atteindre plus de 40 milliards de dollars. La facture des importations a baissé de 5 milliards de dollars par mois à 1,5 milliard de dollars, ce qui redonne plus de stabilité à l'économie nationale.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Drissa, bonjour à tous.
Le WAC de Casablanca sans entraîneur.
Ah oui, Houssine Amouta et le WAC Casablanca, c'est fini. Deux mois après avoir remporté la Ligue africaine des champions à la tête du Wydad, le coach marocain a été limogé hier. Le technicien de 48 ans qui paye la mauvaise passe actuelle de ses joueurs, ils ont subi lundi en match en retard face au KCM, leur sixième défaite d'affilée. Arrivé en poste en janvier dernier, en remplacement de Sébastien Desarbres, le natif de Kémisset avait été annoncé ces derniers temps du côté du Zamalek en Égypte, mais il pourrait aussi effectuer un retour au Qatar.
Les équipes chinoises se battent pour Aubameyang.
Et oui, la Fédération chinoise de football qui menace deux clubs de la Super League de sanctions financières s'ils ne respectent pas les règles sur les transferts dans le cadre de la surenchère pour recruter l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang du Borussia Dortmund. Les champions en titre de la Super League chinoise, Guangzhou Evergrande, seraient prêts à payer 70 millions d'euros pour le joueur de 28 ans. Ils sont en concurrence avec le Beijing Guang pour recruter Aubameyang.
Zidane veut prouver sa valeur alors que le Real est loin derrière pour le titre en Espagne.
J'ai envie de montrer que je peux être un bon entraîneur aussi dans la difficulté. C'est ce qu'affirme Zinedine Zidane dans les colonnes de France Football alors que l'entraîneur du Real Madrid traverse une mauvaise passe en championnat d'Espagne. Tenez-vous bien, le Real Madrid est actuellement quatrième de la Liga, 16 points de retard sur le leader Barcelone. En championnat, le Real reste sur une cinglante défaite contre le Barça lors du Classico 3-0 et un nul contre le Celta Vigo, 2-2. On rappelle que le Paris Saint-Germain se dressera sur la route du Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et dès ce soir, les huitièmes de finale de la Coupe du Roi, le Real Madrid qui reçoit un club de division 2, Numancé.
Tennis, chute de Venus Williams en Australie.
L'Allemande Angélique Kerber, 22e joueuse mondiale, a éliminé au deuxième tour du tournoi de Sydney l'américaine Venus Williams, 5e au classement WTA. Le score 5-7, 6-3, 6-0, 1h44 de jeu. En quart de finale, Kerber sera opposée à la Slovaque Dominika Sibulkova. Enfin, Idrissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Miami et Toronto, 90 à 89. Portland et Oklahoma City, 117 à 106. Orlando et Dallas, 99-114.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Centrafrique, environ 150 tués et plus de 200 maisons incendiées. Tel est le bilan des violences qui ont lieu depuis le 20 décembre dernier à Paoua, dans le nord-ouest du pays. Ces violences font suite aux affrontements entre le groupe armé RJ, Révolution et Justice, dirigé par Armel Sayou, et le MPC, une faction de l'ex-Séléka du général Abbas Bahar. Devant la dégradation de la situation et au micro de Félix Yepasi Zembrou, le député de Bokaranga, Martin Zigele, ancien candidat à l'élection présidentielle, tire la sonnette d'alarme.
Originellement, il n'y avait pas de Séléka à Paoua. C'est un groupe armé qui s'appelle RJ, Révolution et Justice, dirigé par Armel Sayou. À un moment donné, ce groupe a fait appel aux ex-Séléka du MPC, qui étaient vers Kagabandoro ou Kabo, de venir se joindre à eux à Paoua. Donc, les gens de MPC, dirigés par un certain Abbas Bahar, qui est un bandit, un criminel, ils sont venus à Paoua s'unir avec les 3J et ils ont commencé à écumer la région. Ils ont pris Ndaoundaï et suite à l'intervention musclée de la MINUSCA qu'ils ont libéré Ndaoundaï, après, ils se sont alliés aux 3 heures de Sidiki pour prendre Bokaranga et ils ont été délogés de là. Donc, ils sont revenus sur Paoua et à la faveur d'une dissension entre les 3 heures, le RJ, c'est-à-dire Révolution et Justice de Sayou et Abbas Bahar sur des problèmes de vol de bœufs ou de trafic de bœufs, et le 20 décembre, ils ont commencé à s'affronter. Maintenant, les ex-Séléka de Bahar s'en prennent systématiquement à la population civile. Ils ont tué plus de 150 personnes à la date d'aujourd'hui. Il y a des combats à 9 km de Paoua parce qu'ils tentent de prendre Paoua pour contrôler les sorties de la ville. Dans chaque village, la commune de Miapende, de Danabaria et de Babessar, qui sont donc frontaliers du Tchad, ils vident les greniers des gens parce que les récoltes ont eu lieu en décembre et ils disparaissent avec les récoltes donc, et ils incendient systématiquement les villages. Les femmes, les enfants, etc. fuient pour venir à Paoua. Il y a plus de 50 000 réfugiés actuellement à Paoua et les villages dans ces 3 communes sont vides. La seconde région la plus peuplée après celle de Bangui, c'est la région de Paoua justement. Donc vous imaginez un peu la catastrophe humanitaire, les violences et le désastre là-bas. Nous appelons l'intervention rapide de la MINUSCA dans le cadre de son mandat pour amener tout simplement la paix dans cette région-là et de bouter dehors tous ces bandits qui n'ont aucun projet politique.
Oui, la MINUSCA est-elle présente dans la région, sûrement?
Mais la MINUSCA est présente à Paoua, à Bokaranga, à Ngaoundaï, il y a un contingent de la MINUSCA à Bossangwa, à Markunda et tout. Des femmes enceintes sont tuées, égorgées, éventrées, on enlève leurs bébés dans leur ventre pour les jeter. Les vieux qui ne peuvent pas fuir, on les brûle dans leur maison. Tous les villages à partir de Bémal jusqu'à la frontière du Tchad, sur 30 km, tous les villages sont systématiquement brûlés. Plus de 2000 maisons. C'est inacceptable qu'aujourd'hui, en 2018, des drames comme ça se passent à guichets fermés, des hommes et des femmes meurent comme des animaux.
Monsieur Zigele, qu'en est-il du réarmement des FACA dont on parle souvent?
Je voudrais d'abord saluer la Russie qui a fait une donation gratuite d'armes, de matériel militaire à la RCA et je voudrais que les autres pays membres du Conseil de sécurité fassent la même chose. Il faut qu'ils aident le pays à avoir une armée pour défendre le pays. Si demain, on ne fait pas attention et qu'on laisse cette situation comme ça, ce qui se passe au nord de la RCA sera pire que ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram.
C'était Martin Zigele, député de Bokaranga, ancien candidat à la présidentielle en Centrafrique.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur la crise financière que traverse le Tchad, contraint de réduire à nouveau les salaires des fonctionnaires. D'autres pays africains se voient également obligés à prendre des mesures d'austérité pour sortir du marasme économique et satisfaire les bailleurs de fonds. Mais les fonctionnaires doivent-ils en faire les frais? Les gouvernements africains comme celui du Tchad n'ont-ils d'autre choix que d'augmenter les prix et de diminuer les salaires? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
À Lubumbashi, en République démocratique du Congo, la police procède à une opération surprise de déguerpissement. C'était hier, au petit marché destiné aux handicapés, devant la grande place de la Poste, sur ordre du maire de la ville, Jean-Oscar Sanguza. Ce dernier veut lancer les travaux d'un projet de construction d'un parking moderne. La société civile est, elle, très inquiète face à cette situation. Sur place, notre correspondant Narval Mabila.
La police chasse par surprise ce mardi les handicapés qui exerçaient leur petit commerce, des habits usagés, téléphones, chaussures et bien d'autres activités. Voici les témoignages de certains handicapés recueillis par VO Afrique.
S'il y a un problème pareil qu'on nous a surpris, il a fallu d'abord convoquer le président de l'association et lui informer que voilà, nous en tant qu'autorité, nous avons besoin de faire ça et ça. En ce moment-là, ils doivent aussi se défendre parce que ce sont des gens, ils ont une tête malgré l'handicap physique. Mais la tête fonctionne convenablement. D'un coup, le matin, nous sommes venus ici pour étaler nos marchandises. Nous avons vu les soldats qui sont venus brusquement là. Non, n'étalez pas vos histoires. Faites rentrer vos histoires dans les dépôts. Nous nous sommes demandé qu'est-ce qui se passe au juste. D'un coup, on a vu le bourgmestre. Il est venu, dans les couloirs qui mènent vers le parc hôtel. On a pris toutes les tables, on les a brûlées ici. On nous a intimidés. Nous sommes restés là-bas. Calme. Nous sommes restés vraiment tête en l'air, on n'a pas de position. C'est ainsi que le maire est venu lui-même. Nous sommes allés les voir, il n'a pas voulu nous recevoir.
Moi, personnellement, je suis abattue vraiment en tant que femme handicapée. Donc comme moi, je suis une femme infirme de naissance. Vous voyez un peu la douleur. Ça commence depuis la naissance. Jusqu'aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai bien étudié, je n'ai pas d'emploi.
Pour le maire de la ville, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, les handicapés avaient été déjà avertis et ce projet de parking moderne commencera bientôt.
Il y a un projet qui date de longtemps. Les travaux vont commencer maintenant. Et c'est un endroit où on doit utiliser un parking. C'est depuis déjà une année et demie qu'on est en train de demander des parkings qui aident dans les marchés qui sont maintenant. Les travaux vont commencer. Dans 2-3-4 jours, les travaux vont commencer là-bas.
Face à cette situation, la société civile interpelle le maire de la ville à revoir sa décision afin de trouver une solution juste et raisonnable pour les handicapés. Maître Kaloua, président de la société civile du Haut-Katanga.
Pour nous, c'est une surprise. La décision, nous pouvons la considérer comme une décision brusque, dans la mesure où cette catégorie, comme nous venons de le souligner, c'est une catégorie de vulnérables. Il fallait le prévenir bien avant et au besoin chercher une autre place, de sorte qu'il ne puisse pas y avoir des conséquences négatives telles que nous venons d'écouter les intéressés eux-mêmes. Mais voilà qu'aujourd'hui, on vient de les déguerpir. Nous, personnellement, en tant que société civile, ne sommes pas d'accord avec une telle décision de la part du maire de la ville. Il fallait le prévenir, non seulement le prévenir, préparer un autre endroit pour que ces derniers puissent aussi se débrouiller.
La machine semble déjà en marche et rien ne peut arrêter les autorités malgré les larmes des handicapés. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
VO Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Burundi, les véhicules de transport usés seront interdits à la circulation sur les routes du pays, comme l'avait indiqué le président Pierre Nkurunziza 2 jours avant son discours de fin d'année. Il souhaite ainsi éviter le nombre d'accidents qui ont augmenté l'année dernière et il demande également aux investisseurs de se mettre ensemble pour acheter des bus modernes. Mais les transporteurs indiquent que les moyens dont ils disposent ne leur permettent pas d'acheter de nouveaux véhicules. Reportage à Bujumbura de Christophe Nkurunziza.
Dans le parking pour les bus de transport situé dans la zone de Rehero, en commune urbaine de Moa, des dizaines de bus attendent leur tour pour charger les passagers qui rentrent dans les différents quartiers au nord et au sud de la capitale. S'il est vrai que la plupart de ces bus sont en bon état, certains sont malheureusement plutôt vieux. Pour le président burundais Pierre Nkurunziza, ces vieux bus de Marquia, ces Toyota Quaster, ne seront plus autorisés au courant de cette année à transporter les personnes et les biens au Burundi. Pourquoi le président Nkurunziza ?
Nous n'accepterons plus qu'un vieux bus circule au Burundi. Les clients qui s'assoient sur des clous ou des fils ou des gens qui quittent le bus quand ils veulent flamber, nous n'accepterons plus de tels cas sur les routes du pays. Nous n'accepterons pas non plus d'assister impuissants qu'il y ait des accidents où meurent de nombreux Burundais. Il faut qu'il y ait des gens qui investissent dans le transport avec des règles claires. Il faut que ces personnes se mettent ensemble. Vaut mieux aller vendre des arachides ou de la farine de maïs au lieu d'amener en circulation une voiture que l'on vient d'acheter 500 000 francs burundais. On achète souvent des bus neufs avec l'Office des transports au Burundi, mais nous demandons aux associations des transporteurs de se mettre ensemble et d'investir.
À côté de ces bus qui transportent les habitants de la capitale, Bujumbura, un bureau a été érigé par des responsables qui font payer des tickets de 1000 francs burundais aux chauffeurs de ces bus. Parmi eux, un certain Roger Nyavenda, qui a eu jadis un bus de transport, mais aujourd'hui fait partie de l'association des transporteurs. Il estime que les moyens font défaut à la plupart des transporteurs.
La décision est bonne parce qu'il arrive des fois qu'il y a beaucoup de dégâts sur la route à cause des vieux véhicules. Mais cela est causé par la crise qui circule dans la population, mais dans les patrons des véhicules. L'outillage coûte cher, les pièces de rechange coûtent cher. Il n'est pas à mesure maintenant d'acheter notre véhicule. Ce que nous demandons à notre père, le président de la République, c'est essayer maintenant de voir si on peut avoir capital quelque part. L'État peut donner une sorte de crédit. Comme ça, les gens, après avoir travaillé, ils les remboursent. Comme ça, son véhicule reste en bon état.
Clotilde Monima habite le quartier de Kamenyi au nord de Bujumbura et se rend souvent en ville en prenant ses bus de transport en commun, tout en affirmant que ce domaine des transports n'attire pas la plupart des investisseurs burundais. À l'intérieur du pays, tout comme dans la capitale, il est aujourd'hui difficile de trouver des bus neufs de transport, sauf pour quelques rares propriétaires d'agences de transport. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En Algérie, des centaines d'Algériennes sont abandonnées par leur mari après une ablation du sein due à un cancer, une épreuve dont elles ressortent souvent détruites. Quand la société tourne le dos à ces femmes, c'est un récit de Salwa Jafari.
Il y a des choses pires que la maladie, le fait d'abandonner sa femme malade après 18 ans, pas une année, et des enfants, des jeunes filles. Il faut protéger. La vie, elle est dure ici en Algérie. Abandonner des jeunes filles, abandonner une femme, je trouve que c'est la maladie les plus propres. Et plus saine.
Comme de nombreuses Algériennes, Linda dit avoir été abandonnée par son mari après une ablation du sein. Il l'appelait Nesmra, demi-femme, ou Lemkta, la mutilée, raconte cette assistante médicale, la voix nouée, plusieurs années après la séparation.
Vous imaginez, madame, qu'on est mariée.
Vous travaillez, vous faites les courses, vous éduquez les enfants, vous vous faites battre, mais vous êtes patiente. Vous vivez une vie normale et tout d'un coup, tout est fini.
En Algérie, chaque année, des milliers de femmes sont diagnostiquées d'un cancer du sein la plupart du temps et n'ont d'autre choix que l'ablation chirurgicale de cette partie de leur corps profondément associée à leur féminité. Hayat raconte que son fiancé l'a abandonnée après lui avoir annoncé qu'elle allait subir une opération. « Il m'a dit, je veux une femme entière, pas les trois quarts d'une femme », a déclaré cette étudiante de 30 ans fondant en larmes. Samia Gasmi, responsable d'un organisme de lutte contre le cancer du sein, dit que beaucoup de femmes sont abandonnées par leur mari juste après leur diagnostic. Les laissant seules pour faire face à des traitements drastiques, elles se retrouvent parfois dans la rue.
La malade qui refuse dénoncer sa maladie, elle dit non. Pourquoi ? Parce que d'autres personnes, ils se font fuir.
Elle pense que le mari va les abandonner, que leur belle-mère les pousse au divorce, alors que ce n'est pas une maladie contagieuse.
Alors ce n'est pas une maladie contagieuse.
Ces femmes considèrent leur maladie comme honteuse, ajoute Gasmi. L'une d'elles a refusé d'en parler à sa propre sœur, tandis qu'une autre a commencé à porter le hijab, le voile islamique, avant la chimiothérapie.
Des malades, avec leur chimiothérapie, elles sont là à porter une perruque, à porter le hijab bien avant de faire leur chimiothérapie. Elle sait qu'elle va perdre ses cheveux.
Chaque année, 9 000 à 10 000 cas de cancer du sein sont enregistrés en Algérie. Environ 3 500 Algériennes en décèdent. Pour celles qui subissent une ablation du sein, l'accès à la reconstruction est difficile. Les structures publiques qui l'offrent gratuitement sont surchargées et dans le privé, l'opération est très coûteuse.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anna Burson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.